France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps, en Grèce, il pouvait arriver que les dieux et les déesses en aient marre. Ils en ont vraiment assez du comportement des humains. Ces humains, très souvent, font n'importe quoi. Ils ont tendance à se prendre pour des dieux, à se croire tout permis. Et ils ne respectent aucune règle, aucune piété. Dégoûtés, les dieux et les déesses décident alors de laisser faire. Ils se retirent dans leur Olympe bienheureux et abandonnent l'humanité à elle-même. Les dieux quittent la partie. Ils regardent ce qui se passe sur la terre. Et ils envoient un bon gros châtiment quand ils trouvent que c'est vraiment trop.
Vous vous croyez tout puissant ? Vous vous prenez pour des dieux ? Eh bien, débrouillez-vous. On vous laisse.
Le résultat n'est pas triste. Laissés à eux-mêmes, les humains sont de pire en pire. Les familles se déchirent, parents contre enfants, frères contre frères, dans une suite de crimes et d'actes épouvantables contre nature. C'est ce qui est arrivé avec la famille de Tantale, dont nous vous avons déjà raconté les folles histoires pour les trois premières générations.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Pour résumer, la première génération est celle de Tantale, l'ancêtre. C'était un mortel, fils de Zeus, un roi d'Asie extrêmement riche. Zeus l'aimait bien. Il le recevait à sa cour dans l'Olympe et faisait la fête avec lui. Mais Tantale a abusé. Il a volé les dieux et s'est moqué d'eux en leur offrant à manger la chair de son fils Pélops. Le châtiment de Tantale est affreux. Deuxième génération, Pélops est miraculeusement sauvé du chaudron où son père Tantale l'avait mis à cuire. Poséidon le protège et lui permet de gagner une course de chars qui fera de Pélops un grand roi de Grèce. Cette course est à l'origine des Jeux d'Olympie. Mais Pélops avait triché. Il avait corrompu le cocher de son adversaire. Une fois vainqueur, Pélops tue ce cocher qui a le temps de maudire toute la famille. Troisième génération. Pélops a deux fils, Atrée et Thieste, qui ne cessent de se quereller. Thieste couche avec la femme d'Atrée. Pour se venger, Atrée fait manger à Thieste ses enfants. Cette famille aime la cuisine. Le soleil est tellement horrifié qu'il change sa course. Nous en étions là de ce feuilleton. Ça repart avec la quatrième génération, la nouvelle. Celle des deux fils aînés d'Atrée, les brothers Agamemnon et Ménélas. Les Atrides, comme on dit, les fils d'Atrée. Beaucoup de choses vont changer. Les dieux sont lassés des horreurs qu'accomplissent les humains quand on les laisse faire. Ils vont reprendre les choses en main. On va sortir de la petite histoire familiale. Avec les Atrides, avec Agamemnon et Ménélas, la famille va s'élargir à l'histoire mondiale, avec la guerre de Troie, avec l'arrivée de la belle Hélène et de sa sœur Clytemnestre, non moins belle. Les dieux vont d'abord s'arranger pour que les deux fils d'Atrée, les frères Agamemnon et Ménélas, ne soient jamais rivaux. Les deux frères vont s'entendre, même s'ils vont vivre des destins opposés. L'un des deux finira bien dans la béatitude, après avoir été quand même pendant 10 ou 20 ans, ça dépend des récits, le cocu, le plus célèbre de toute la Grèce et de l'Asie, Ménélas, le mari mouvementé et sans doute pénible aussi, d'Hélène. L'autre frère, Agamemnon, sera assassiné par sa femme Clytemnestre, la sœur d'Hélène, parce qu'il a tué leur fille, la toute jeune Iphigénie. Mais au moins un des deux, Ménélas, sera sauvé. Parlons de sa femme, Hélène, divine parmi les femmes, fille de Zeus. Les dieux, Zeus en tête, vont s'intéresser à nouveau à l'histoire de cette famille, monstrueuse et tant de fois criminelle. Ils vont intervenir par les femmes, par des mariages. Les deux frères, les Atrides, Agamemnon et Ménélas, vont épouser deux sœurs, Hélène et Clytemnestre. Mais ces deux sœurs ne sont pas de même statut, de même niveau. L'une est fille de Zeus, c'est Hélène, et l'autre, Clytemnestre, non. Les deux sœurs ont la même mère, Leda, une femme magnifique, dont les cheveux étaient beaux comme les rayons de la lune. Leda était l'épouse du roi Tindare, ce qui ne va pas trop gêner Zeus quand il lui fera des enfants. Mais Clytemnestre et Hélène n'ont pas le même père. Hélène, dit-on, est la fille de Zeus. Selon certains récits, Zeus a pris l'apparence d'un cygne pour coucher par surprise avec Léda, qui prenait le frais près d'une rivière. La pauvre Léda aurait pondu un œuf qui contenait Hélène. La naissance de Clytemnestre est, dans la plupart des légendes, normale. Elle est la fille du roi Tindare, un mortel. L'histoire de Zeus qui se transforme en cygne pour s'unir à Léda, cette belle humaine, est assez incroyable. Elle est racontée par Hélène elle-même, dans la tragédie d'Euripide, qui porte son nom. Hélène la raconte parce que c'est la seule qu'elle connaisse et parce que plein de gens la répètent. Mais elle n'y croit pas beaucoup. On est au début de la pièce. Hélène se présente.
Moi, ma terre paternelle est Sparte. Elle n'est pas inconnue. Mon père est Tindare. Il y a bien une histoire qui raconte que Zeus a pris son vol pour aller à ma mère, Léda. Il avait pris la forme d'un oiseau et s'était fait cygne. Zeus menait à leur fin ses amours dérobés, fuyant l'aigle qui le poursuivait. Si ce discours est juste.
Zeus est habile. Il fait comme si un aigle le poursuivait, lui le cygne, et qu'il devait se réfugier dans les bras de Léda, qui se reposait quelque part dans la nature. Mais l'aigle est normalement l'oiseau de Zeus. Le dieu a tout manipulé. Cette histoire est invraisemblable, et Hélène se considère comme étant la fille non de Zeus, mais de Tindare, le mortel qui l'a élevé. Cette histoire de cygne, de Léda qui pond un œuf, est pour Hélène la preuve qu'elle est un être monstrueux, inhumain, si cette histoire est vraie. Hélène est extrêmement belle, prodigieuse comme sa naissance. Mais c'est elle qui, à cause de sa beauté, a été à l'origine de la guerre de Troie, ce désastre qui a ravagé l'humanité pendant des années. Hélène se plaint amèrement auprès des femmes qui l'accompagnent. Ah, si seulement elle était née comme tout le monde, pas dans un œuf. Et si enfin elle était laide.
Femme, amie, à quel sort suis-je soumise ? Ma mère, en me mettant au monde, n'a-t-elle pas fait de moi un monstre du genre humain ? Aucune femme, ni grecque, ni barbare, n'accouche d'une coquille blanche de poussin, comme on dit que m'enfanta Léda, enceinte de Zeus. Et ma vie fut bien celle d'un monstre, et tout ce qui m'est arrivé, d'une part à cause de Héra, et d'autre part à cause de ma beauté. Si seulement mes couleurs étaient effacées comme d'une statue, et que de belle, je pouvais devenir laide sous une nouvelle forme, et si seulement les Grecs avaient oublié le destin éclatant que j'ai maintenant, et s'ils pouvaient raconter l'absence d'éclat autant qu'ils racontent mes malheurs.
Voir Hélène en toute femme, c'est une phrase de Méphistophélès dans le Faust de Goethe, dans La cuisine de la sorcière. Faust voit une image de femme dans le miroir.
Barbara Cassin.
C'est Marguerite, c'est Hélène. Et après avoir bu son bouillon, Méphistophélès le calme alors qu'il veut partir à la poursuite de cette beauté. Il lui dit, mais avec ce bouillon dans le corps, avec cette boisson dans le corps, tu verras bientôt Hélène en toute femme. Voir Hélène en toute femme donc, c'est une manière d'expliquer comment Hélène est à la fois une femme et la femme. Toutes les femmes.
La beauté.
France Inter. Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Je suis belle, oh mortelle. Comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je trouve dans l'azur comme un sphinx incompris, j'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lits. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments consumeurs, ont leurs jours en d'austères études, car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles.
Pierre Judet de la Combe raconte l'histoire de la belle Hélène,
cette déesse qui serait née dans un œuf.
Hélène est née parfaite. L'œuf n'a-t-il pas une forme sans défaut, lisse et régulière ? N'est-il pas éclatant de blancheur comme Hélène au bras blanc ? Une question très sérieuse et très difficile pour les Grecs anciens était de savoir combien d'œufs Léda avait pondu. Un seul pour Hélène ? Ou Clytemnestre aussi ne serait-elle pas née d'un œuf ? Certains le disent. Pourtant, Clytemnestre n'a pas eu le destin d'Hélène. Elle a été sauvagement tuée par son fils Oreste, alors qu'Hélène a survécu à tous ses malheurs. Il y a en fait peu de chances que Clytemnestre soit née de Zeus. Son père devait plutôt être Tyndare, le mortel. Et il y avait encore d'autres œufs. Dans la même ponte, il devait y avoir les œufs qui ont donné naissance à Castor et Pollux. Ou peut-être seulement à l'un d'eux. On les appelait les fils de Zeus, les Dioscures. Mais étaient-ils tous les deux vraiment fils de Zeus ? Étaient-ils immortels tous les deux ? Les histoires varient infiniment. Une solution était de dire que quand l'un était mort, l'autre était vivant. Alternativement, la question était réglée. Mais est-on vraiment sûr que Léda ait pondu des œufs ? Pour une humaine, c'est vraiment inattendu. Alors, on a inventé une autre histoire où l'œuf aurait été pondu par une déesse. Les divinités peuvent tout. Zeus n'aurait pas poursuivi la belle Léda, mais la déesse Némésis. Cette union a de quoi surprendre. Némésis est une figure sombre, normalement pas du genre de Zeus. Elle est fille de la déesse Nuit, cette déesse née du tout premier dieu, le dieu Chaos. Nuit est une déesse de l'abîme, de l'obscurité, qui produit les puissances négatives comme la mort ou la querelle, des puissances qui arrêtent le cours de la vie, qui l'empêchent de déborder. Némésis veut dire en grec « colère divine », l'indignation divine qui produit un châtiment. Némésis est un mot de la même famille que nomos, le partage légal, la loi. Cette déesse vous donne ce qui vous revient, comme par mérité d'indignité, comme châtiment, si vous avez franchi des limites que vous ne deviez pas franchir. Zeus s'éprend de cette Némésis, jeune déesse, il la poursuit, elle fuit. Mais comme d'habitude, il arrive à ses fins. C'est ce que raconte une épopée longtemps attribuée à Homère. On appelle ce poème « Les chants de l'île de Chypre » ou « Les chants cypriens ». Homère aurait composé cette épopée, mais il se trouve que sa fille devait se marier et épouser un grand notable de l'île de Chypre. Or, Homère était pauvre, il n'avait pas de quoi payer la dot de sa fille. Il aurait donc offert ce poème à son futur gendre, dit la légende.
Un jour, Némésis aux beaux cheveux engendra Hélène. Elle avait couché avec Zeus, le roi des dieux, qui l'avait serré avec force. Elle le fuyait, elle ne voulait pas coucher avec lui, Zeus le père, fils de Cronos. Son cœur était tourmenté de pudeur et d'indignation. Sur terre, sur l'eau noire qui ne se moissonne pas, elle fuyait. Zeus poursuivait avec ardeur, il voulait la prendre. Tantôt dans la houle de la mer au grand tumulte, elle se faisait pareille à un poisson, et Zeus excitait les flots immenses. Tantôt sur le fleuve océan et aux limites de la terre, tantôt sur la terre aux mille labours, elle se faisait bête sauvage, terreur que nourrit la terre pour lui échapper.
Puis, raconte le poème, Némésis finit par se transformer en noix. Zeus la rejoint en prenant la forme ou d'un cygne ou d'un jar, selon les versions. Il faudrait demander à des ornithologues si un cygne peut féconder une oie. Toujours est-il que Némésis, après, pond un œuf. Elle l'abandonne, exprès. Un berger trouve cet œuf et l'apporte à Léda, qui le découvre. Sappho, la poétesse, nous dit que cet œuf n'était pas blanc, mais de la couleur violette de la jacinthe.
Ils disent qu'un jour, Léda trouva un œuf couleur de jacinthe. Il était bien dense.
Léda range l'œuf dans un panier. Hélène finit par naître, et Léda et son mari, le roi Tindare, l'élèvent comme leur fille. Pourquoi Zeus veut-il à tout prix avoir un enfant de Némésis, cette déesse sombre, nocturne, de la colère, de l'indignation? Cette déesse fille de nuit n'est pas du tout son genre. Il y avait là tout un calcul. Il s'agissait de provoquer la guerre de Troie et surtout de rendre cette guerre intéressante. C'est ce que racontait le tout début de ce poème, les chants cypriens. Zeus, au départ, voulait simplement supprimer vite fait une bonne partie de l'humanité. La déesse Terre s'était plainte auprès de lui que le poids des humains sur son dos était beaucoup trop lourd. Pourtant, il n'était pas encore 8 milliards, comme nous le sommes sur Terre depuis un mois. Terre souffrait. En plus, ces humains étaient sans respect, impies, et ils faisaient du bruit. Zeus, plein de sollicitude pour la déesse Terre, était prêt à employer ses méthodes habituelles, la foudre, des déluges. Ça, il sait faire. Mais voilà qu'un petit dieu, un malin, le dieu de la moquerie, de la plaisanterie mauvaise, le dieu sarcasme, un certain Momos, fils de la déesse nuit comme Némésis, conseille à Zeus de s'y prendre autrement. La foudre, un déluge, c'est banal. Ce serait beaucoup plus intéressant que Zeus fasse naître d'une déesse un guerrier très puissant, Achille, et que Zeus donne lui-même naissance à une femme très belle, Hélène, pour laquelle Grecs et Troyens se feraient la guerre. Comme ça, avec ces deux personnages, Hélène et Achille, une belle et longue et divertissante guerre pourra embraser le monde pendant des années. Le nombre d'êtres humains sera fortement diminué et la déesse Terre sera soulagée. Et surtout, cela fera un beau spectacle pour les dieux et de belles histoires à raconter pour les humains qui survivront. Toute la guerre de Troie serait donc une mauvaise plaisanterie. Les dieux grecs ne sont pas sérieux, mais c'est comme ça qu'ils font le monde. Et on comprend que dans cette version du mythe, la mère d'Hélène, de la beauté qui devait être si ravageuse pour l'humanité, soit Némésis, la colère divine. Hélène est née de la colère des dieux contre les humains, contre leur arrogance et contre leur impiété. Les Troyens ont enlevé Hélène à cause de sa beauté. Ils vont le payer lourdement. Et les Grecs, qui vont les assiéger, se feront aussi massacrer. Bon, Hélène est donc pondue, quelle que soit sa mère, Léda ou Némésis. Sa beauté était stupéfiante. Elle en fut d'abord la victime. Le premier homme à s'éprendre d'elle fut le grand Thésée, immense héros qui était le roi d'Athènes. Il succomba dès qu'il la vit, alors qu'elle était encore une jeune enfant. Il l'enleva et l'enferma dans une ville de la région d'Athènes. Les frères d'Hélène, les autres pondus, Castor et Pollux, les Dioscures, firent une guerre pour la délivrer. Hélène grandit. Il faut la marier. Elle était tellement belle que les prétendants accouraient en foule de partout. Son père humain, Tindare, prit peur. Il se dit que tous ceux qui n'obtiendraient pas Hélène pourraient contester le choix et entamer des guerres. Prudent, il eut l'idée de demander à tous ces jeunes gens de jurer par un serment solennel que s'il arrivait quoi que ce soit au mari choisi, il lui prêterait secours. Ils jurèrent tous. Restait à choisir le mari. Plusieurs traditions ont cours. Ou bien, Tindare décide de donner, c'est le mot, Hélène au jeune Ménélas, qui était le plus riche. Et on dit aussi qu'il voulait éviter à tout prix qu'Agamemnon, le frère de Ménélas, qui avait déjà épousé l'autre fille de Tindare, Clytemnestre, ne veuille s'en prendre à Hélène. Ou bien Tindare laisse sa fille choisir. Pour une raison ou pour une autre, Hélène choisit Ménélas. On se demande toujours pourquoi, vu la suite des événements. Mais mieux vaut ne pas essayer de comprendre. Ménélas a vite été cocu, mais il devait avoir plus de qualités qu'on ne pense. On ne peut pas dire qu'au départ, les mariés furent heureux très longtemps. Ils eurent une fille, Hermione, mais le mariage devait vite être fortement secoué. Arrive à Sparte, la ville de Ménélas et d'Hélène, l'incroyablement beau Paris, le jeune Troyen. Il était envoyé par Aphrodite, la déesse de l'amour, parce que c'est elle que Paris avait choisie comme étant la déesse la plus belle lors de la fameuse scène du jugement de Paris. Trois déesses étaient venues le consulter pour savoir laquelle des trois était la plus belle. Il y avait Héra, la femme de Zeus, Athéna, fille de Zeus, et Aphrodite, également fille de Zeus. Aphrodite lui avait promis qu'il aurait Hélène comme épouse, s'il la choisissait. Le tendre et beau Paris choisit Aphrodite et Hélène. Paris se rend en Grèce chez Ménélas. Il est reçu avec tous les honneurs dus à son rang de fils du roi Priam, le roi de Troie. Mais Ménélas doit s'absenter pour quelque temps en Crète. Paris en profite pour séduire Hélène, l'enlever, sans oublier de prendre sur son bateau une bonne part des richesses de Ménélas. C'est un affront direct au mari et à Zeus en tant que dieu de l'hospitalité, Zeus l'hospitalier. L'injure doit être payée. Ce sera les 10 années de la guerre de Troie.
Où est-elle ? Je jure par le père de tous les dieux que je t'éventre sur place si tu ne me le dis pas !
Mon roi ! Elle est partie avec les Troyens. Ce pêcheur l'a vu monter à bord de leur navire.
Les Troyens.
Avec le jeune prince Paris, elle...
Armez mon navire.
Tous les Grecs qui avaient voulu épouser Hélène ont solennellement juré qu'ils viendraient au secours de celui qui sera choisi comme mari d'Hélène. Tous ces Grecs étaient donc obligés d'aider Ménélas, le mari bafoué, à récupérer Hélène et à se venger. Et voilà. La guerre de Troie peut commencer.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
Dreaming.
Pierre Judet de la Combe raconte l'histoire de la belle Hélène,
cette déesse qui est à l'origine de la guerre de Troie.
Hélène de Troie est la première femme adultère de l'aventure humaine.
Claude Mettra.
Et qu'elle va fonder sur l'adultère l'histoire de notre espèce. Mais l'adultère tel qu'il est vécu par Hélène de Troie n'est pas un vaudeville bourgeois. Si les rois, les princes et les humbles soldats de la Méditerranée s'affrontent, souffrent et meurent sous les murailles de Troie, ce n'est pas par jeu chevaleresque, ce n'est pas par ennui, en saisissant le mince prétexte de ce qui n'est après tout qu'une histoire de lit. Ce qui compte, c'est qu'à travers Hélène, les hommes revivent à leur manière, qui est cruelle et douloureuse, l'histoire des dieux, qui est l'histoire d'une constante récréation du monde.
Les poètes, les penseurs anciens se sont longtemps interrogés sur le comportement d'Hélène. Pourquoi a-t-elle suivi le beau Paris ? Hélène est-elle partie contrainte par la force ? A-t-elle été contrainte par la déesse Aphrodite ? Ou par la puissance du discours amoureux de Paris ? Ou était-ce un libre choix de sa part ? Est-elle coupable ou non ? Les réponses ont varié à l'infini. Chez Homère, Hélène n'arrête pas de s'accuser elle-même, de se traiter de...
face de chienne.
Elle regrette d'avoir quitté ses proches, sa famille de Grèce, pour suivre Paris jusqu'à Troie et pour l'épouser. Mais c'est ce qu'elle dit après 9 années de guerre et de mort, tant du côté troyen que du côté grec. L'aurait-elle dit avant ? Auprès de son beau-père troyen, Priam, le père de Paris, elle s'accuse elle-même avec violence.
Hélène, divine parmi les femmes, dit ces mots à Priam.
« Tu es pour moi, beau-père bien-aimé, objet de vénération et d'effroi. » Si seulement la mort mauvaise m'avait séduite le jour où, ici, j'ai suivi ton fils, quittant ma chambre et mes familiers, ma fille choyée et mon adorable compagnie. Mais cela ne fut pas et je m'use à pleurer.
Pour Priam, Hélène n'est clairement pas coupable. Ce sont les dieux qui l'ont amenée à Troie et qui ont déclenché cette guerre meurtrière. Ce qui n'est pas faux, c'était bien le projet de Zeus.
Cher enfant, tu n'es pour moi coupable en rien. Les dieux sont les coupables. Ils ont lancé la guerre pourvoyeuse de larmes avec les Grecs.
Il faut dire que juste avant, des vieillards troyens, assis à ne rien faire sur le rempart de la ville, avaient réclamé le départ d'Hélène pour que la guerre finisse. C'étaient des membres de l'entourage de Priam, des anciens. Ils étaient sages et savaient parler. Homère les décrit comme des
« nobles parleurs ». Pareils aux cigales qui, dans les bois, posées sur un arbre, lancent une voix de lys.
Ces vieillards voient passer devant eux Hélène, majestueuse et magnifique. Ils l'admirent, mais ils veulent qu'elle parte.
Ils se parlaient les uns aux autres avec des mots ailés.
Il n'est pas révoltant que Troyens et Grecs aux bonnes jambières souffrent de douleur pour une telle femme pendant un temps si long. Terriblement, elle a pour qui la regarde l'apparence des déesses immortelles. Mais qu'elle retourne malgré tout au bateau. Qu'elle ne reste pas ici, en fléau du futur pour nous et nos enfants.
Homère ne tranche pas sur la responsabilité d'Hélène. Il laisse les différentes opinions humaines s'exprimer. Pendant des siècles, il y a eu une querelle chez les Grecs. Hélène est-elle coupable ou non ? Les poètes et les penseurs qui défendent ou qui attaquent Hélène ont en général exprimé un point de vue bien masculin. C'est Paris nécessairement qui désire le premier. Et la question est, Hélène pouvait-elle, devait-elle résister à l'amour que lui manifestait Paris ?
Tu ne devrais pas être ici.
C'est ce que tu as dit la nuit dernière.
La nuit dernière était une erreur.
Des perles de la mer de Propontis.
Elles sont magnifiques, mais je ne peux les porter. Ménélas sera capable de nous tuer.
N'aie pas peur de lui.
Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de demain.
Une seule voix fait d'Hélène un personnage actif, parle de son désir et non de celui de Paris. C'est Sappho, la poétesse de l'île de Lesbos, née au 7e siècle avant notre ère. Hélène a tout quitté, tout trahi pour l'homme qu'elle aime. Hélène montre que ce qu'il y a de plus beau, de plus admirable sur Terre, c'est l'objet de l'amour. Partir avec Paris est pour Sappho un exploit grandiose, plus héroïque et plus libre que tous les efforts militaires qu'ont pu déployer Grecs et Troyens avec leurs chars, leurs chevaux et leurs bateaux, tout cet attirail viril que les poèmes guerriers comme ceux d'Homère racontent en long et en large.
Une armée de cavaliers ou de fantassins ou de bateaux, ils disent qu'il n'y a rien de plus beau sur la terre noire. Moi, je dis que c'est qui on aime. Il est très facile de le faire comprendre à tout le monde, car la femme qui surpassait tous les êtres humains par sa beauté, Hélène, l'homme le meilleur, elle l'a abandonné et elle a pris la mère pour Troie, de son enfant, de ses parents chéris, elle ne s'est pas souvenue. Mais au loin, amoureuse l'emporta Aphrodite.
Hélène était très belle, la plus belle. Mais elle a trouvé une beauté encore plus belle, celle de Paris, qui était ce qu'il y a de plus beau, parce qu'elle l'aimait. Sappho compare alors l'amour d'Hélène pour Paris à celui qu'elle éprouve pour la belle Anactoria. Une femme aimée, mais trop absente. Sappho compare alors l'amour d'Hélène pour Paris à celui qu'elle éprouve pour la belle Anactoria. Une femme aimée, mais trop absente. Sappho partirait bien avec elle.
Aujourd'hui, je me souviens d'Anactoria, qui n'est pas là. Je voudrais contempler son pas qui fait naître le désir et son visage lumineux quand il scintille, plus que les chars des Lydiens et les combattants en ligne chargés de toutes leurs armes.
Hélène aime, sans limite. Elle part légère, comme si de rien n'était, passant les portes de sa chambre, laissant le vide dans la maison de Ménélas. N'y subsiste, dit le poète Eschyle, que
la trace de ses pas amoureux de l'homme.
Ménélas, tout d'abord, est abasourdi, vidé. Il ne rencontre chez lui que l'absence, l'abandon. Aphrodite n'est plus dans sa maison. Ménélas devient un spectre. Tout ce qui est beau, la grâce des statues dans son palais, lui fait horreur. Ménélas se met à haïr l'amour. Eschyle décrit le mari cocu, non pas en être ridicule, mais en homme dont le désir est désormais sans objet, détruit de l'intérieur.
Par l'effet du désir d'une femme partie au-delà de la mer, un fantôme semblera régner sur la maison. La grâce des statues aux formes belles, Ménélas la hait, et dans la vacance de ses yeux, Aphrodite tout entière a disparu.
L'absence d'Hélène va se transformer en désir frénétique de guerre. La violence va se déchaîner, remplaçant l'amour. Une autre absence prendra alors le relais pendant 10 années. Non plus celle d'Hélène, mais celle des milliers de guerriers partis se battre à Troie pour Hélène, la femme d'un autre, et qui ne reviennent pas, ou qui reviennent mais réduits en cendres dans des urnes funéraires à côté de leurs armes, désormais inutiles. Ce n'est plus la souffrance d'un seul homme, Ménélas, mais celle de toutes les maisons grecques, un malheur total.
Puis le malheur est total. Pour ceux qui se sont élancés de la terre de Grèce, l'endeuillement qui met à mal le cœur éclate dans la maison de chacun. Une masse de douleur touche le foie, car qui on a envoyé, on le sait, mais au lieu d'un homme, les armes et la cendre arrivent à la maison de chacun.
Hélène, qui par son départ, par son absence, est à l'origine de toutes ces morts, ne change pas. Quoi qu'il arrive, elle est toujours du côté d'Aphrodite, de l'amour. Elle l'aime sans limite et elle est aimée infiniment. Pendant la guerre, Achille, le meilleur des Achéens, disait-on, voulait savoir si ça valait vraiment le coup de se battre autant pour Hélène. Il demande à vérifier. Il désire contempler Hélène. Un rendez-vous secret est aménagé par la mère d'Achille, la déesse Thétis, et par Aphrodite, la déesse de l'amour. Achille en revient convaincu, fait la guerre et va se faire tuer par Paris. Puis, Paris, le mari troyen d'Hélène, meurt, tué par un chef grec. Hélène épouse alors un autre Troyen, un dénommé Déiphobe, Déiphobos, dont le nom est censé être terrifiant. Il veut dire « qui effraye les ennemis ». Mais il ne fera pas long feu. Hélène sait séduire et être aimée comme si elle était toutes les femmes. C'est pour ça que tant de Grecs et de Troyens ne cessent de mourir pour elle. Hélène sait même imiter toutes les femmes. Elle sait reproduire toutes les voix de femmes. Cela a failli perdre l'armée grecque. L'histoire est racontée par Ménélas lui-même. C'était au début de la terrible nuit où les Grecs vont prendre et saccager la ville de Troie. Les meilleurs des héros grecs se sont cachés dans le cheval de bois qu'Ulysse a eu l'idée de faire construire. Les Troyens, naïfs, ont fait entrer ce cheval inattendu dans leur ville, pensant que c'était un cadeau des dieux, une bénédiction, puisque l'armée grecque, avec toute sa flotte, semblait bien avoir renoncé à la guerre. Elle avait disparu. Dans le cheval, les guerriers attendent, avant de sortir du piège de bois et de se précipiter dans les rues de la ville. Hélène, évidemment, a compris que le cheval était plein de guerriers grecs, impatients de se battre. Elle s'approche avec son nouveau mari troyen, Déiphobe, et elle trouve une ruse pour signaler aux Troyens la présence des Grecs. Comme toujours, elle séduit, mais en imitant la voix des épouses. Ménélas, qui était dans le cheval, raconte.
Nous étions assis dans le cheval de bois bien lisse, tous les meilleurs des Grecs, porteurs de mort et de meurtre aux Troyens. Puis tu es venue là, Hélène. Sans doute un démon te commandait. Il voulait offrir un grand triomphe aux Troyens. Déiphobe, semblable au dieu, venait à ta suite. Trois fois tu fis le tour de ce piège creusé en le caressant, en appelant un par un les noms des meilleurs des Grecs. De chaque Grec tu imitais la voix de son épouse. Et moi, et Diomède, le fils de Tidée, et le divin Ulysse, nous étions assis au milieu d'eux et écoutions tes appels. Diomède et moi nous brûlions tous les deux, ou de sortir, ou de te répondre en restant dedans. Mais Ulysse nous empêchait et nous retenait malgré nous. Tous les autres fils des Grecs gardaient le silence. Seul Anticlos voulait te répondre en parlant. Mais Ulysse lui pressa les mâchoires des deux mains, fortement, sans pitié. Il sauva tous les Grecs, jusqu'à ce que Pallas Athéna t'éloigne de nous.
Les Grecs sortent du cheval et prennent la ville. Ménélas tue Déiphobe, le mari en trop. C'est une nuit horrible, pleine de cruauté, de sacrilège. Les Grecs deviennent fanatiques. Ils ne respectent rien, même pas les sanctuaires des dieux. Tout est saccagé.
Les autels et les édifices des dieux sont devenus invisibles. Et la semence de la terre est annulée dans tous ces lieux.
Cassandre, fille de Priam, est dénudée, violée par le chef grec Ajax, fils d'Oïleus, dans le temple d'Athéna, alors que la déesse, par des signes de sa statue, avait essayé d'arrêter Ajax. Ce viol rendra la déesse furieuse, elle qui avait soutenu les Grecs jusque-là. Ajax le paiera, noyé pendant son voyage de retour en Grèce. Néoptolème, le fils d'Achille, massacre le vieux Priam sur l'autel de Zeus. La mort n'a pas de limite. Les hommes sont tués, les épouses et les filles asservies, les enfants sont supprimés, comme Astyanax, le fils d'Andromaque et d'Hector, jeté par Ulysse du haut des remparts de Troie. Ces remparts que les Grecs ont mis 10 années à prendre. Les Grecs sont devenus fous. Il est étonnant que la Grèce se soit donné un événement aussi monstrueux et sacrilège, comme mythe essentiel, comme événement fondateur, prouvant la supériorité grecque sur l'Asie et l'unité profonde des différentes cités grecques qui ont toutes été entraînées dans cette histoire. Les conquérants de Troie ont payé les crimes commis pendant cette nuit. Les dieux ont été tellement horrifiés par leur comportement qu'ils en ont supprimé une grande partie par une tempête lors du retour. Pendant cette nuit de mise à sac, arrive la confrontation attendue. Ménélas se retrouve en face d'Hélène. Que va-t-il faire ? La tuer avec son épée, comme il l'avait promis ? Mais non. Selon la légende, Hélène, le voyant, a dénudé sa poitrine et le pauvre Ménélas a perdu d'un coup tous ses moyens guerriers. Une autre tradition dit que les Grecs s'apprêtait à lapider Hélène. Comme ça, chacun aurait pu se venger des souffrances subies. Mais quand ils virent Hélène, ils laissèrent tomber leurs pierres. Ménélas et Hélène rentrent chez eux et ils vécurent heureux. On dit même qu'Hélène rendit Ménélas immortel, ou que Ménélas finit, ou plutôt ne finit pas sa vie aux Champs-Élyséens, en pleine béatitude, quelque part au bord de l'océan. Il méritait bien ça, Hélène, elle, était déjà fille de Zeus et immortelle.
You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you've had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost, until you've flipped your heart and you have lost. You don't know what love is. Do you know how a lost heart fears the thought of reminiscing, that taste of tears lose their taste for kissing? You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you faced each dawn with sleepless eyes. You don't know what love is. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you've faced each dawn with sleepless eyes. How could you know what love is? What love is? What love?
Pierre Judet de la Combe raconte l'histoire d'Hélène,
la plus belle des déesses.
Hélène est la beauté et exclusivement la beauté. Et elle est la beauté qui permet toutes les transgressions.
Pierre Vidal-Naquet.
Et je ne donnerai qu'un exemple, mais caractéristique. Quand Paris affronte Ménélas, il va être tué. Mais Aphrodite l'emmène dans une nuée en pleine journée. Et il retrouve Hélène et ils font l'amour de jour. Or, faire l'amour de jour, c'est un interdit dans le monde homérique. Et il n'y a que deux exemples du contraire. L'un, c'est justement cette scène nuptiale, si je puis dire, entre Paris et Hélène en plein jour, et l'autre, ce sont les noces répétées de Zeus et d'Héra en plein jour également sur le sommet du mont Ida.
Et maintenant, pour finir, un coup de théâtre. Et si tout cela était faux? Et si Hélène n'avait jamais trompé Ménélas? Si elle n'avait pas suivi Paris? Si elle n'était jamais allée à Troie? Toutes ces histoires de Paris, de Troie qu'on trouve chez Homère et chez plein d'auteurs seraient des mensonges, des calomnies contre la pauvre Hélène qui, en fait, a toujours été l'innocence même. Il y avait des Grecs, pas la majorité, qui pensaient ça. On nous raconte qu'un grand poète de Sicile, Stésichore, qui a vécu au VIe siècle avant notre ère, avait benoîtement raconté la guerre de Troie, telle qu'on la racontait d'habitude, avec l'infidélité d'Hélène, la fuite avec Paris, son long séjour à Troie, la guerre à cause d'elle. Mais, paraît-il, à peine Stésichore eut-il fini son poème qu'il devint aveugle. Il comprit qu'il n'aurait pas dû dire tout ce mal à propos d'Hélène. Il composa alors un second chant, une palinodie, à savoir un chant qui va à rebours, dans l'autre sens, pour dire qu'Hélène était innocente, qu'elle n'est jamais allée à Troie, et il a retrouvé la vue. Quand ce Stésichore avait des yeux qui voyaient, il ne voyait pas la réalité vraie. Il s'est trompé sur Hélène en l'envoyant à Troie. Il a fallu que Stésichore devienne aveugle pour qu'il ne se laisse pas prendre par les faux semblants de la tradition poétique et qu'il se rende compte de son erreur. Il a pu changer son récit et cesser de blasphémer contre Hélène. Et de fait, il y avait des récits qui disaient déjà qu'Hélène s'était réfugiée en Égypte et que ce qui est allé à Troie est un fantôme d'elle, un clone, une imitation faite avec un peu de vapeur. Grecs et Troyens se seraient entretués pour une nuée, pour rien.
La nuée, le souffle, les nuages, dans le grec ancien, cela renvoie à la conception de l'âme.
Michel Cazenave.
Donc, Paris n'emmène avec lui qu'un simulacre, mais en même temps, il emmène l'âme. C'est-à-dire qu'il emmène un simulacre qui est peut-être plus vrai que la vraie Hélène.
Euripide, le poète tragique, qui aime bien les situations tordues, a repris l'histoire dans sa tragédie « Hélène ». La pièce se passe en Égypte, où Hélène a été transportée par les dieux, il y a des années. Le beau Paris n'a emporté à Troie qu'une ombre, une image d'Hélène. C'est la déesse Héra, l'épouse de Zeus, qui a tout manigancé. Lors de la fameuse scène du jugement de Paris, Paris n'a pas choisi Héra comme la déesse la plus belle. Il a préféré Aphrodite. Eh bien, Héra s'arrange pour que Paris ne possède pas Hélène, qu'Aphrodite avait promise à Paris. Héra fabrique avec de la vapeur une fausse Hélène et la donne à Paris. Hélène nous explique tout ça elle-même.
Aphrodite gagne. Paris, le Troyen, a quitté son pays. Il est venu à Sparte pour prendre possession de mon lit. Mais Héra, fâchée de ne pas vaincre les déesses, fit partir en souffle le lit où j'étais avec Paris. Ce n'est pas moi qu'elle donne au fils du roi Priam, mais elle compose avec du ciel une image qui respire, qu'elle fit semblable à moi. Et lui, il pense m'avoir, mais je ne suis qu'une illusion vide.
Dans cette histoire étonnante, Hélène n'était donc pas tout à fait innocente, puisqu'elle était allée se coucher dans le même lit que Paris. Hélène ne changera jamais. Elle sera toujours du côté de la séduction, de l'amour. Mais Héra a arrêté l'aventure amoureuse en créant sa fausse Hélène. Zeus, qui voulait à tout prix la guerre de Troie, adapte ses plans. Vous vous souvenez, il voulait que la déesse Terre ait moins à souffrir du poids excessif d'une humanité trop nombreuse. Pour que la Terre soit un peu soulagée, il fallait provoquer cette guerre. Zeus va donc faire en sorte que Grecs et Troyens se battent, même si Hélène n'est pas physiquement présente à Troie, mais remplacée par une image vide, une Hélène de vapeur. Après tout, ça ne change rien. Les hommes se battront pour cette Hélène illusoire, pour une...
statue de brume.
Et Zeus va demander à son dieu spécialiste des coups en douce, Hermès, d'enlever Hélène la vraie, de la cacher dans les replis du ciel et de la transporter par les airs en Égypte, chez le bon roi Protée, qui la protégera. Ménélas finit par arriver sur cette terre d'Égypte. Il y débarque après un naufrage, avec son Hélène de Troie, celle qu'il a arrachée aux Troyens et qu'il pense, évidemment, être la vraie Hélène. La question ne se posait pas. Ménélas est donc plutôt perplexe quand il apprend que vit dans ce pays d'Égypte, qu'il ne connaît pas du tout, une autre Hélène, venue de Sparte et fille de Zeus, comme la sienne. Le monde serait-il double ? Ménélas a peur de perdre la raison. Par chance pour Ménélas, le fantôme qui l'a ramené de Troie a l'élégance de disparaître dans les airs, là d'où venait cette fausse Hélène. Ménélas retrouve en Égypte sa vraie femme, qui trouve d'abord qu'elle a l'air d'une brute. Ils disent s'aimer. Hélène en Égypte, ne trompons pas Ménélas, ou Hélène à Troie sur les lieux de la guerre menée en son nom. Faut-il choisir ? En fait, Hélène en Égypte, ou Hélène à Troyes, cela ne change strictement rien. Il y aura toujours la guerre au nom d'Hélène. Si Hélène à Troyes n'est qu'un nom, une vapeur, l'histoire sera en fait la même. Hélène peut être toutes les femmes. Elle peut prendre la voix de toutes les femmes. Sa beauté est telle qu'elle rassemble en elle toutes les beautés. Qu'elle soit physiquement là ou pas, ne change pas. On dit qu'Hélène a continué à vivre dans un lieu réservé aux grands personnages héroïques du mythe, l'île Blanche. Elle y vivrait des jours heureux avec l'autre grande figure de la guerre de Troie, Achille. Mais Hélène et Achille ont été tous les deux dérangés récemment. Cette île Blanche est encore bien connue. On en parle beaucoup aujourd'hui. C'est l'île des Serpents, dans la mer Noire, tout près de l'embouchure du Danube. Cette île a été occupée pour une autre guerre que la guerre de Troie, pour la guerre d'Ukraine, par la marine russe. Hélène n'existe pas sans la guerre. Les Grecs avaient une interprétation pour son nom. Hélène, c'est celle qui prend, celle qui emporte, sur le verbe « Hélène ».
Celle qui prend les bateaux, celle qui prend les hommes, celle qui prend les villes.
Hélénas, Hélandros, Héleptolis. C'est ainsi qu'Échille parle du nom d'Hélène et du dieu invisible qui lui a donné ce nom si juste, qui fait mouche.
Qui a pu donner ce nom si absolument juste, si ce n'est quelqu'un que nous ne voyons pas et qui, par connaissance de ce qui devait arriver, a dirigé sa langue avec bonheur? Quant à la mariée des lances, à la femme disputée, il a donné le nom d'Hélène, celle qui prend. Car en accord avec son nom, Hélène, Hélénée, celle qui prend les bateaux, Hélénas. Celle qui prend les hommes, Hélandros. Celle qui prend les villes, Héleptolis, a quitté le secret des étoffes délicates de sa chambre et parti sur la mer, avec le souffle géant du zéphyr.
Quand les dieux rôdaient sur la terre...
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Le Chêne. La programmation musicale est de Jean-Baptiste Audibert. La prise de son a été assurée par Éric Villenfin et le mixage par Pierre Henry. La semaine prochaine, nous réécouterons le portrait de la belle et féroce Artémis. Bonne journée sur France Inter.